curé, chapitre 2. Aristide Rougon s'abattit sur Paris au lendemain du 2 décembre, avec ce flair des oiseaux de proie qui sentent de loin les champs de bataille. Il arrivait de Plassans, une sous-préfecture du Midi, où son père venait enfin de pêcher dans l'eau trouble des événements une recette particulière, longtemps convoitée. Lui, jeune encore, après s'être compromis comme un sot, sans gloire ni profit, avait dû s'estimer heureux de se tirer sain et sauf de la bagarre. Il accourait, en rageant d'avoir fait fausse route, maudissant la province, parlant de Paris avec des appétits de loup, jurant qu'il ne serait plus si bête. Et le sourire aigu dont il accompagnait ces mots prenait une terrible signification sur ses lèvres minces. Il arriva dans les premiers jours de 1852. Il amenait avec lui sa femme, Angèle, une personne blonde et fade, qu'il installa dans un étroit logement de la rue Saint-Jacques, comme un meuble gênant dont il avait hâte de se débarrasser. La jeune femme n'avait pas voulu se séparer de sa fille, la petite Clotilde, une enfant de 4 ans, que le père aurait volontiers laissée à la charge de sa famille. Mais il ne s'était résigné au désir d'Angèle qu'à la condition d'oublier au collège de Plassans leur fils Maxime, un galopin de 11 ans, sur lequel sa grand-mère avait promis de veiller. Aristide voulait avoir les mains libres. Une femme et un enfant lui semblaient déjà un poids écrasant pour un homme décidé à franchir tous les fossés, quitte à se casser les reins ou à rouler dans la boue. Le soir même de son arrivée, pendant qu'Angèle défaisait les malles, il éprouva l'âpre besoin de courir Paris, de battre de ses gros souliers de provincial ce pavé brûlant, d'où il comptait faire jaillir des millions. Ce fut une vraie prise de possession. Il marcha pour marcher, allant le long des trottoirs comme en pays conquis. Il avait la vision très nette de la bataille qu'il venait livrer, et il ne lui répugnait pas de se comparer à un habile crocheteur de serrures qui, par ruse ou par violence, va prendre sa part de la richesse commune qu'on lui a méchamment refusée jusque-là. S'il avait éprouvé le besoin d'une excuse, il aurait invoqué ses désirs étouffés pendant 10 ans, sa misérable vie de province, ses fautes surtout, dont il rendait la société entière responsable. Mais à cette heure, dans cette émotion du joueur qui met enfin ses mains ardentes sur le tapis vert, il était tout à la joie, une joie à lui, où il y avait des satisfactions d'envieux et des espérances de fripons impunis. L'air de Paris le grisait. Il croyait entendre, dans le roulement des voitures, les voix de Macbeth qui lui criaient « Tu seras riche !» Pendant près de 2 heures, il alla ainsi de rue en rue, goûtant les voluptés d'un homme qui se promène dans son vice. Il n'était pas revenu à Paris depuis l'heureuse année qu'il y avait passé comme étudiant. La nuit tombait, son rêve grandissait dans les clartés vives que les clartés et les magasins jetaient sur les trottoirs. Il se perdit. Quand il leva les yeux, il se trouvait vers le milieu du faubourg Saint-Honoré. Un de ses frères, Eugène Rougon, habitait une rue voisine, la rue Penthièvre. Aristide, en venant à Paris, avait surtout compté sur Eugène, qui, après avoir été un des agents les plus actifs du coup d'État, était à cette heure une puissance occulte, un petit avocat dans lequel naissait un grand homme politique. Mais par une superstition de joueur, il ne voulut pas aller frapper ce soir-là à la porte de son frère. Il regagna lentement la rue Saint-Jacques, songeant à Eugène avec une envie sourde, regardant ses pauvres vêtements, encore couverts de la poussière du voyage, et cherchant à se consoler en reprenant son rêve de richesse. ce rêve lui-même était devenu amer. Parti par un besoin d'expansion, mis en joie par l'activité boutiquière de Paris, il rentra, irrité du bonheur qui lui semblait courir les rues, rendu plus féroce, s'imaginant des luttes acharnées dans lesquelles il aurait plaisir à battre et à duper cette foule qu'il avait coudoyée sur les trottoirs. Jamais il n'avait ressenti des appétits aussi larges, des ardeurs aussi immédiates de jouissance. Le lendemain, au jour, il était chez son frère. Eugène habitait deux grandes pièces froides, à peine meublées, qui glacèrent Aristide. Il s'attendait à trouver son frère vautré en plein luxe. Ce dernier travaillait devant une petite table noire. Il se contenta de lui dire, de sa voix lente, avec un sourire, « Ah, c'est toi, je t'attendais !» Aristide fut très aigre. Il accusa Eugène de l'avoir laissé végéter, de ne pas même lui avoir fait l'aumône d'un bon conseil pendant qu'il pataugeait en province. Il ne devait jamais se pardonner d'être resté républicain jusqu'au 2 décembre. C'était sa plaie vive, son éternelle confusion. Eugène avait tranquillement repris sa plume. Quand il eut fini, « Bah, dit-il, toutes les fautes se réparent, tu es plein d'avenir. » Il prononça ces mots d'une voix si nette, avec un regard si pénétrant, qu'Aristide baissa la tête, sentant que son frère descendait au plus profond de son être. Celui-ci continua avec une brutalité amicale. « Tu viens pour que je te place, n'est-ce pas? J'ai déjà songé à toi, mais je n'ai encore rien trouvé. Tu comprends, je ne puis te mettre n'importe où. » Il te faut un emploi où tu fasses ton affaire, sans danger pour toi ni pour moi. Ne te récris pas. Nous sommes seuls, nous pouvons nous dire certaines choses. » Aristide prit le parti de rire. « Oh, je sais que tu es intelligent, poursuivit Eugène, et que tu ne commettrais plus une sottise improductive. Dès qu'une bonne occasion se présentera, je te caserai. « Si d'ici là tu avais besoin d'une pièce de 20 francs, viens me la demander. » Ils causèrent un instant de l'insurrection du midi, dans laquelle leur père avait gagné sa recette particulière. Eugène s'habillait tout en causant. Dans la rue, au moment de le quitter, il retint son frère un instant encore. Il lui dit à voix plus basse, « Tu m'obligeras en ne battant pas le pavé et en attendant tranquillement chez toi l'emploi que je te promets. Il me serait désagréable de voir mon frère faire antichambre. » Aristide avait du respect pour Eugène, qui lui semblait un gaillard hors ligne. Il ne lui pardonna pas ses défiances, ni sa franchise un peu rude. Mais il alla docilement s'enfermer rue Saint-Jacques. Il était venu avec 500 francs que lui avait prêté le père de sa femme. Les frais du voyage payés, il fit durer un mois les 300 francs qui lui restaient. Angèle était une grosse mangeuse. Elle crut en outre devoir rafraîchir sa toilette de gala par une garniture de ruban mauve. Ce mois d'attente parut interminable à Aristide. L'impatience le brûlait. Lorsqu'il se mettait à la fenêtre, et qu'il sentait sous lui le labeur géant de Paris, il lui prenait des envies folles de se jeter d'un bond dans la fournaise pour y pétrir l'or de ses mains fiévreuses comme une cire molle. Il aspirait ces souffles encore vagues qui montaient de la grande cité, ces souffles de l'empire naissant, où traînaient déjà des odeurs d'alcôve et de tripots financiers, des chaleurs de jouissance. Les fumées légères qui lui arrivaient lui disaient qu'il était sur la bonne piste, que le gibier courait devant lui, que la grande chasse impériale, la chasse aux aventures, aux femmes, aux millions, commençait enfin. Ses narines battaient. Son instinct de bête affamée saisissait merveilleusement au passage les moindres indices de la curée chaude dont la ville allait être le théâtre. Deux fois, il alla chez son frère pour activer ses démarches. Eugène l'accueillit avec brusquerie, lui répétant qu'il ne l'oubliait pas, mais qu'il fallait attendre. il reçut enfin une lettre qui le priait de passer rue de Penthièvre. Il y alla, le cœur battant à grands coups comme à un rendez-vous d'amour. Il trouva Eugène devant son éternelle petite table noire, dans la grande pièce glacée qui lui servait de bureau. Dès qu'il l'aperçut, l'avocat lui tendit un papier en disant « Tiens, j'ai reçu ton affaire hier. Tu es nommé commissaire voyer adjoint à l'hôtel de ville. Tu auras 2 400 francs d'appointement. » Aristide était resté debout. Il blêmit et ne prit pas le papier, croyant que son frère se moquait de lui. Il avait espéré au moins une place de 6 000 francs. Eugène, devinant ce qui se passait en lui, tourna sa chaise et, se croisant les bras, « Serais-tu un sot ? » demanda-t-il avec quelque colère. « Tu fais des rêves de fille, n'est-ce pas ? Tu voudrais habiter un bel appartement, avoir des domestiques, bien manger, dormir dans la soie, te satisfaire tout de suite au bras de la première venue, dans un boudoir meublé en 2 heures ? Toi et tes pareils, si nous vous laissions faire, vous videriez les coffres avant même qu'ils fussent pleins. Eh mon Dieu, et quelque patience ! Vois comme je vis, et prends au moins la peine de te baisser pour ramasser une fortune. » Il parlait avec un mépris profond des impatiences d'écolier de son frère. On sentait dans sa parole rude des ambitions plus hautes, des désirs de puissance pure. Ce naïf appétit de l'argent devait lui paraître bourgeois et puéril. Il continua d'une voix plus douce, avec un fin sourire, « Certes, tes dispositions sont excellentes, et je n'ai garde de les contrarier. Les hommes comme toi sont précieux. Nous comptons bien choisir nos bons amis parmi les plus affamés. Ah, sois tranquille, nous tiendrons table ouverte, et les plus grosses fins seront satisfaites. C'est encore la méthode la plus commode pour régner. Mais par grâce, attends que la nappe soit mise. Et si tu m'en crois, donne-toi la peine d'aller chercher toi-même ton couvert à l'office. » Aristide restait sombre. Les comparaisons aimables de son frère ne le déridaient pas. Alors celui-ci céda de nouveau à la colère. « Tiens ! » s'écria-t-il, « j'en reviens à ma première opinion. Tu es un sot. Et qu'espérais-tu donc ? Que croyais-tu donc que j'allais faire de ton illustre personne ? Tu n'as même pas eu le courage de finir ton droit. Tu t'es enterré pendant 10 ans dans une misérable place de commis de sous-préfecture. Tu m'arrives avec une détestable réputation de républicain que le coup d'État a pu seul convertir. Crois-tu qu'il y ait en toi l'étoffe d'un ministre avec de pareilles notes ? Oh, je sais, tu as pour toi ton envie farouche d'arriver par tous les moyens possibles. C'est une grande vertu, j'en conviens. Et c'est à elle que j'ai eu égard en te faisant entrer à la ville. » Et se levant, mettant la nomination dans les mains d'Aristide, « Prends, continua-t-il, tu me remercieras un jour. C'est moi qui ai choisi la place. Je sais ce que tu peux en tirer. Tu n'auras qu'à regarder et à écouter. Si tu es intelligent, tu comprendras et tu agiras. Maintenant, retiens bien ce qu'il me reste à te dire. Nous entrons dans un temps où toutes les fortunes sont possibles. Gagne beaucoup d'argent, je te le permets. Seulement, pas de bêtises, pas de scandale trop bruyant, ou je te supprime. » Cette menace produisit l'effet que ses promesses n'avaient pu amener. Toute la fièvre d'Aristide se ralluma à la pensée de cette fortune dont son frère lui parlait. Il lui sembla qu'on le lâchait enfin dans la mêlée, en l'autorisant à égorger les gens, mais légalement, sans trop les faire crier. Eugène lui donna 200 francs pour attendre la fin du mois. Puis il resta songeur. « Je compte changer de nom, » dit-il enfin. « Tu devrais en faire autant, nous nous gênerions moins. » « Comme tu voudras, » répondit tranquillement Aristide. « Tu n'auras à t'occuper de rien, je me charge des formalités. Veux-tu t'appeler Sicardo du nom de ta femme ?» Aristide leva les yeux au plafond, répétant, écoutant la musique des syllabes. « Sicardo, Aristide Sicardo. Ma foi, non, c'est ganache et ça sent la faillite. »« Cherche autre chose alors, » dit Eugène. J'aimerais mieux 6 quarts tout court, reprit l'autre après un silence. Aristide 6 quarts. Pas trop mal, n'est-ce pas? Peut-être un peu gai. Il rêva un instant et d'un air triomphant. J'y suis, j'ai trouvé, cria-t-il. Saccard, Aristide Saccard, avec 2 C. Hein? Il y a de l'argent dans ce nom-là. On dirait que l'on compte des pièces de 100 sous. Eugène avait la plaisanterie féroce. Il congédia son frère en lui disant avec un sourire « Oui, un nom à aller au bagne ou à gagner millions. » Quelques jours plus tard, Aristide Saccard était à l'hôtel de ville. Il apprit que son frère avait dû user d'un grand crédit pour l'y faire admettre sans les examens d'usage. Alors commença pour le ménage la vie monotone des petits employés. Aristide et sa femme reprirent leurs habitudes de plaçant. Seulement, ils tombaient d'un rêve de fortune subite, et leur vie mesquine leur pesait davantage depuis qu'ils la regardaient comme un temps d'épreuve dont ils ne pouvaient fixer la durée. Être pauvre à Paris, c'est être pauvre 2 fois. Angèle acceptait la misère avec cette mollesse de femme chlorotique. Elle passait les journées dans sa cuisine, ou bien couchée à terre, jouant avec sa fille, ne se lamentant qu'à la dernière pièce de 20 sous. Mais Aristide frémissait de rage dans cette pauvreté, dans cette existence étroite où il tournait comme une bête enfermée. Ce fut pour lui un temps de souffrances indicibles. Son orgueil saignait, ses ardeurs inassouvies le fouettaient furieusement. Son frère réussit à se faire envoyer au corps législatif par l'arrondissement de Plassans, et il souffrit davantage. Il sentait trop la supériorité d'Eugène pour être sottement jaloux. Il l'accusait de ne pas faire pour lui ce qu'il aurait pu faire. À plusieurs reprises, le besoin le força d'aller frapper à sa porte pour lui emprunter quelque argent. Eugène prêta l'argent, mais en lui reprochant avec rudesse de manquer de courage et de volonté. Dès lors, Aristide se roidit encore. Il jura qu'il ne demanderait plus 1 sou à personne et il tint parole. Les 8 derniers jours du mois, Angèle mangeait du pain sec en soupirant. Cet apprentissage acheva la terrible éducation de Saccard. Ses lèvres devinrent plus minces. Il n'eut plus la sottise de rêver ses millions tout haut. Sa maigre personne se fit fluette, n'exprima plus qu'une volonté, qu'une idée fixe caressée à toute heure. Quand il courait de la rue Saint-Jacques à l'hôtel de ville, ses talons éculés sonnaient aigrement sur les trottoirs, et il se boutonnait dans sa redingote râpée comme dans un asile de haine, tandis que son museau de fouine flairait l'air des rues. Anguleuse figure de la misère jalouse que l'on voit rôder sur le pavé de Paris, promenant son plan de fortune et le rêve de son assouvissement. Vers le commencement de 1853, Aristide Saccard fut nommé commissaire voyer. Il gagnait 4 500 francs. Cette augmentation arriva à temps. Angèle dépérissait. La petite Clotilde était toute pâle. Il garda son étroit logement de 2 pièces, la salle à manger meublée de noyer et la chambre à coucher d'acajou, continuant à mener une existence rigide, évitant la dette, ne voulant mettre les mains dans l'argent des autres que lorsqu'il pourrait les y enfoncer jusqu'au coude. Il mentit ainsi à ses instincts, dédaigneux des quelques sous qui lui arrivaient en plus, restant à l'affût. Angèle se trouva parfaitement heureuse. Elle s'acheta quelques nippes, mit la broche tous les jours. Elle ne comprenait plus rien aux colères muettes de son mari, à ses mines sombres d'homme qui poursuit la solution de quelque redoutable problème. Aristide suivait les conseils d'Eugène. Il écoutait et il regardait. Quand il alla remercier son frère de son avancement, celui-ci comprit la révolution qui s'était opérée en lui. Il le complimenta sur ce qu'il appela sa bonne tenue. l'employé, que l'envie roidissait à l'intérieur, s'était fait souple et insinuant. En quelques mois, il devint un comédien prodigieux. Toute sa verve méridionale s'était éveillée et il poussait l'art si loin que ses camarades de l'hôtel de ville le regardaient comme un bon garçon que sa proche parenté avec un député désignait à l'avance pour quelques gros emplois. Cette parenté lui attirait également la bienveillance de ses chefs. Il vivait ainsi dans une sorte d'autorité supérieure à son emploi qui lui permettait d'ouvrir certaines portes et de mettre le nez dans certains cartons, sans que ses indiscrétions parussent coupables. On le vit, pendant 2 ans, rôder dans tous les couloirs, s'oublier dans toutes les salles, se lever 20 fois par jour pour aller causer avec un camarade, porter un ordre, faire un voyage à travers les bureaux, éternelle promenade qui faisait dire à ses collègues « Ce diable de Provençal, il ne peut se tenir en place, il a du vif argent dans les jambes !» Ses intimes le prenaient pour un paresseux, et le digne homme riait quand il l'accusait de ne chercher qu'à voler quelques minutes à l'administration. Jamais il ne commit la faute d'écouter aux serrures. Mais s'il avait une façon carrée d'ouvrir les portes, de traverser les pièces, un papier à la main, l'air absorbé, d'un pas si lent et si régulier, qu'il ne perdait pas un mot des conversations. Ce fut une tactique de génie. On finit par ne plus s'interrompre au passage de cet employé actif qui glissait dans l'ombre des bureaux et qui paraissait si préoccupé de sa besogne. Il eut encore une autre méthode. Il était d'une obligeance extrême. Il offrait à ses camarades de les aider dès qu'ils se mettaient en retard dans le travail. Et il étudiait alors les registres, les documents qui lui passaient sous les yeux avec une tendresse recueillie. Mais un de ses péchés mignons fut de lier amitié avec les garçons de bureau. Il allait jusqu'à leur donner des poignées de main. Pendant 2 heures, il les faisait causer entre 2 portes, avec de petits rires étouffés, leur contant des histoires, provoquant leurs confidences. Ces braves gens l'adoraient, disaient de lui « En voilà un qui n'est pas fier !» Dès qu'il y avait un scandale, il en était informé le premier. C'est ainsi qu'au bout de 2 ans, l'hôtel de ville n'eut plus de mystère pour lui. Il en connaissait le personnel jusqu'au dernier des lampistes et les paperasses jusqu'aux notes des blanchisseuses. À 7 heures, Paris offrait, pour un homme comme Aristide Saccard, le plus intéressant des spectacles. L'Empire venait d'être proclamé après ce fameux voyage pendant lequel le prince-président avait réussi à chauffer l'enthousiasme de quelques départements bonapartistes. Le silence s'était fait à la tribune et dans les journaux. La société, sauvée encore une fois, se félicitait, se reposait, faisait la grasse matinée, maintenant qu'un gouvernement fort la protégeait et lui ôtait jusqu'au souci de penser et de régler ses affaires. La grande préoccupation de la société était de savoir à quels amusements elle allait tuer le temps. Selon l'heureuse expression d'Eugène Rougon, Paris se mettait à table et rêvait gaudriole au dessert. La politique épouvantait, comme une drogue dangereuse. Les esprits lassés se tournaient vers les affaires et les plaisirs. Ceux qui possédaient déterraient leur argent, et ceux qui ne possédaient pas cherchaient dans les coins les trésors oubliés. Il y avait, au fond de la cohue, un frémissement sourd, un bruit naissant de pièces de 100 sous, des rires clairs des femmes, des tintements encore affaiblis de vaisselle et de baisers. Dans le grand silence de l'ordre, dans la paix aplatie du nouveau règne, montaient toutes sortes de rumeurs aimables, de promesses dorées et voluptueuses. Il semblait qu'on passât devant une de ces petites maisons dont les rideaux soigneusement tirés ne laissent voir que des ombres de femmes, et où l'on entend l'or sonner sur le marbre des cheminées. L'Empire allait faire de Paris le mauvais lieu de l'Europe. il fallait à cette poignée d'aventuriers qui venaient de voler un trône un règne d'aventures, d'affaires véreuses, de consciences vendues, de femmes achetées, de souleries furieuses et universelles. Et, dans la ville où le sang de décembre était à peine lavé, grandissait, timide encore, cette folie de jouissance qui devait jeter la patrie au cabanon des nations pourries et déshonorées. Aristide Saccard, depuis les premiers jours, sentait venir ce flot montant de la spéculation, dont l'écume allait couvrir Paris entier. Il en suivit les progrès avec une attention profonde. Il se trouvait au beau milieu de la pluie chaude d'écus tombant dru sur les toits de la cité. Dans ses courses continuelles à travers l'hôtel de ville, il avait surpris le vaste projet de la transformation de Paris, le plan de ses démolitions, de ses voies nouvelles et de ses quartiers improvisés, de cet agio formidable sur la vente des terrains et des immeubles qui allumait, aux quatre coins de la ville, la bataille des intérêts et le flamboiement du luxe à outrance. Dès lors, son activité eut un but. Ce fut à cette époque qu'il devint bon enfant. Il engraissa même un peu. Il cessa de courir les rues comme un chat maigre en quête d'une proie. Dans son bureau, il était plus causeur, plus obligeant que jamais. Son frère, auquel il allait rendre des visites en quelque sorte officielles, le félicitait de mettre si heureusement ses conseils en pratique. Vers le commencement de 1854, Saccard lui confia qu'il avait en vue plusieurs affaires, mais qu'il lui faudrait d'assez fortes avances. « On cherche, » dit Eugène. « Tu as raison, je chercherai, » répondit-il sans la moindre mauvaise humeur, sans paraître s'apercevoir que son frère refusait de lui fournir les premiers fonds. C'était ces premiers fonds dont la pensée le brûlait maintenant. Son plan était fait, il le mûrissait chaque jour. Mais les premiers milliers de francs restaient introuvables. Ses volontés se tendirent davantage. Il ne regarda plus les gens que d'une façon nerveuse et profonde, comme s'il eût cherché un prêteur dans le premier passant venu. Au logis, Angèle continuait à mener sa vie effacée et heureuse. Lui guettait une occasion, et ses rires de bon garçon devenaient plus aigus à mesure que cette occasion tardait à se présenter. Aristide avait une sœur à Paris. Sidonie Rougon s'était mariée à un clerc d'avoué de Plassans qui était venu tenter avec elle, rue Saint-Honoré, le commerce des fruits du midi. Quand son frère la retrouva, le mari avait disparu et le magasin était mangé depuis longtemps. Elle habitait, rue du Faubourg Poissonnière, un petit entresol composé de trois pièces. Elle louait aussi la boutique du bas, située sous son appartement, une boutique étroite et mystérieuse, dans laquelle elle prétendait tenir un commerce de dentelles. Il y avait effectivement dans la vitrine des bouts de guipure et de valenciennes pendus sur des tringles dorées. Mais, à l'intérieur, on eût dit une antichambre aux boiseries luisantes, sans la moindre apparence de marchandises. La porte et la vitrine étaient garnies de légers rideaux qui, mettant le magasin à l'abri des regards de la rue, achevait de lui donner l'air discret et voilé d'une pièce d'attente s'ouvrant sur quelque temple inconnu. Il était rare qu'on vît entrer une cliente chez Madame Sidonie. Le plus souvent même, le bouton de la porte était enlevé. Dans le quartier, elle répétait qu'elle allait elle-même offrir ses dentelles aux femmes riches. L'aménagement de l'appartement lui avait seul fait, disait-elle, louer la boutique et l'entresol, qui communiquaient par un escalier caché dans le mur. En effet, la marchande de dentelles était toujours dehors. On la voyait 10 fois en un jour pour sortir et rentrer, d'un air pressé. D'ailleurs, elle ne s'en tenait pas au commerce des dentelles. Elle utilisait son entresol. Elle l'emplissait de quelques soldes ramassés, on ne savait tout. Elle y avait vendu des objets en caoutchouc, manteau, souliers, bretelles, etc. Puis on y vit successivement une huile nouvelle pour faire pousser les cheveux, des appareils orthopédiques, une cafetière automatique, invention brevetée, dont l'exploitation lui donna bien du mal. Lorsque son frère vint la voir, elle plaçait des pianos. Son entresol était encombré de ses instruments. Il y avait des pianos jusque dans sa chambre à coucher, une chambre très coquettement ornée et qui jurait avec le pêle-mêle boutiquier des deux autres pièces. Elle tenait ses deux commerces avec une méthode parfaite. Les clients qui venaient pour les marchandises de l'entresol entraient et sortaient par une porte cochère que la maison avait sur la rue Papillon. Il fallait être dans le mystère du petit escalier pour connaître le trafic en partie double de la marchande de dentelle. À l'entresol, elle se nommait Madame Touche, du nom de son mari, tandis qu'elle n'avait mis que son prénom sur la porte du magasin, ce qui la faisait appeler généralement Madame Sidonie. Madame Sidonie avait 35 ans, mais elle s'habillait avec une telle insouciance, elle était si peu femme dans les allures, qu'on l'eût jugée beaucoup plus vieille. À la vérité, elle n'avait pas d'âge. Elle portait une éternelle robe noire, limée aux plis, fripée et blanchie par l'usage, rappelant ses robes d'avocat usées sur la barre. Coiffée d'un chapeau noir qui lui descendait jusqu'au front et lui cachait les cheveux, chaussée de gros souliers, elle trottait par les rues, tenant au bras un petit panier dont les anses étaient raccommodées avec des ficelles. Ce panier, qui ne la quittait jamais, était tout un monde. Quand elle l'entr'ouvrait, il en sortait des échantillons de toutes sortes, des agendas, des portefeuilles, et surtout des poignées de papier timbré, dont elle déchiffrait l'écriture illisible avec une dextérité particulière. Il y avait en elle du courtier et de l'huissier. Elle vivait dans les protées, dans les assignations, dans les commandements. Quand elle avait placé pour 10 francs de pommade ou de dentelle, elle s'insinuait dans les bonnes grâces de sa cliente, devenait son homme d'affaires, courait pour elle les avoués, les avocats et les juges. Elle colportait ainsi des dossiers au fond de son panier pendant des semaines, se donnant un mal du diable, allant d'un bout de Paris à l'autre, d'un petit trot égal, sans jamais prendre une voiture. Il eût été difficile de dire quel profit elle tirait d'un pareil métier. Elle le faisait d'abord par un goût instinctif des affaires véreuses, un amour de la chicane. Puis elle y réalisait une foule de petits bénéfices, dîners pris à droite et à gauche, pièces de 20 sous ramassées çà et là. Mais le gain le plus clair était encore les confidences qu'elle recevait partout et qui la mettait sur la piste des bons coups et des bonnes aubaines. Vivant chez les autres, dans les affaires des autres, elle était un véritable répertoire vivant d'offres et de demandes. Elle savait où il y avait une fille à marier tout de suite, une famille qui avait besoin de 3 000 francs, un vieux monsieur qui prêterait bien les 3 000 francs, mais sur des garanties solides et à gros intérêts. Elle savait des choses plus délicates encore. Les tristesses d'une dame blonde que son mari ne comprenait pas et qui aspirait à être comprise. Le secret désir d'une bonne mère rêvant de placer sa demoiselle avantageusement. Les goûts d'un baron porté sur les petits soupers et les filles très jeunes. Et elle colportait, avec un sourire pâle, ses demandes et ses offres. Elle faisait 2 lieues pour aboucher les gens. Elle envoyait le baron chez la bonne mère, décidait le vieux monsieur à prêter les 3 000 francs à la famille gênée, trouvait des consolations pour la dame blonde et un époux peu scrupuleux pour la fille à marier. Elle avait aussi de grandes affaires, des affaires qu'elle pouvait avouer tout haut et dont elle rebattait les oreilles des gens qui l'approchaient. Un long procès qu'une famille noble ruinée l'avait chargée de suivre, et une dette contractée par l'Angleterre vis-à-vis de la France du temps des Stuarts, et dont le chiffre, avec les intérêts composés, montait à près de 3 milliards. Cette dette de 3 milliards était son dada. Elle expliquait le cas avec un grand luxe de détails, faisait tout un cours d'histoire. Et des rougeurs d'enthousiasme montaient à ses joues, molles et jaunes d'ordinaire comme de la cire. Parfois, entre une course chez un huissier et une visite à une amie, elle plaçait une cafetière à un manteau de caoutchouc, elle vendait un coupon de dentelle, elle mettait un piano en location. C'était le moindre de ses soucis. Puis elle accourait vite à son magasin, où une cliente lui avait donné rendez-vous pour voir une pièce de chantilly. La cliente arrivait, se glissait comme une ombre dans la boutique discrète et voilée. Et il n'était pas rare qu'un monsieur, entrant par la porte cochère de la rue Papillon, vint en même temps voir les pianos de Madame Touche à l'entresol. Si Madame Sidonie ne faisait pas fortune, c'était qu'elle travaillait souvent par amour de l'art. Aimant la procédure, oubliant ses affaires pour celles des autres, elle se laissait dévorer par les huissiers, ce qui, d'ailleurs, lui procurait des jouissances que connaissent seuls les gens possessifs. La femme se mourait en elle. Elle n'était plus qu'un agent d'affaires, un placeur battant à toute heure le pavé de Paris, ayant dans son panier légendaire les marchandises les plus équivoques, vendant de tout, rêvant de milliards, et allant plaider à la justice de paix pour une cliente favorite, une contestation de 10 francs. Petite, maigre, blafarde, vêtue de cette mince robe noire qu'on eût dit taillée dans la toge d'un plaideur, elle s'était ratatinée, et à la voir filer le long des maisons, on l'eût prise pour un saute-ruisseau déguisé en fille. Son teint avait la pâleur dolente du papier timbré. Ses lèvres souriaient d'un sourire éteint, tandis que ses yeux semblaient nager dans le tohu-bohu des négoces, des préoccupations de tout genre dont elle se bourrait la cervelle. D'allures timides et discrètes, d'ailleurs, avec une vague senteur de confessionnal et de cabinet de sage-femme, elle se faisait douce et maternelle comme une religieuse qui, ayant renoncé aux affections de ce monde, a pitié des souffrances du cœur. Elle ne parlait jamais de son mari, pas plus qu'elle ne parlait de son enfance, de sa famille, de ses intérêts. Il n'y avait qu'une chose qu'elle ne vendait pas, c'était elle. Non qu'elle eût des scrupules, mais parce que l'idée de ce marché ne pouvait lui venir. Elle était sèche comme une facture, froide comme un proté, indifférente et brutale, au fond, comme un reçu. Saccard, tout frais de sa province, ne put d'abord descendre dans les profondeurs délicates des nombreux métiers de Madame Sidonie. Comme il avait fait une année de droit, elle lui parla un jour des 3 milliards, d'un air grave, ce qui lui donna une pauvre idée de son intelligence. Elle vint fouiller les coins du logement de la rue Saint-Jacques, pesa Angèle d'un regard, et ne reparut que lorsque ses courses l'appelaient dans le quartier et qu'elle éprouvait le besoin de remettre les 3 milliards sur le tapis. Angèle avait mordu à l'histoire de la dette anglaise. La courtière enfourchait son dada, faisait ruisseler l'or pendant une heure. C'était la fêlure dans cet esprit délié, la folie douce dont elle berçait sa vie perdue en misérable trafic, l'appât magique dont elle grisait avec elle les plus crédules de ses clientes. Très convaincue, du reste, elle finissait par parler des 3 milliards comme d'une fortune personnelle dans laquelle il faudrait bien que les juges la fissent rentrer tôt ou tard, ce qui jetait une merveilleuse auréole autour de son pauvre chapeau noir, où se balançaient quelques violettes pâlies à des tiges de laiton dont on voyait le métal. Angèle ouvrait des yeux énormes. À plusieurs reprises, elle parla avec respect de sa belle-sœur à son mari, disant que Madame Sidonie les enrichirait peut-être un jour. Saccard haussait les épaules. Il était allé visiter la boutique et l'entresol du faubourg Poissonnière et il n'y avait flairé qu'une faillite prochaine. Il voulut connaître l'opinion d'Eugène sur leur sœur. Mais celui-ci devint grave et se contenta de répondre qu'il ne la voyait jamais, qu'il la savait fort intelligente, un peu compromettante peut-être. Cependant, comme Saccard revenait rue de Penthièvre, quelque temps après, il crut voir la robe noire de Madame Sidonie sortir de chez son frère et filer rapidement le long des maisons. Il courut, mais il ne put retrouver la robe noire. La courtière avait une de ces tournures effacées qui se perdent dans la foule. Il resta songeur, et ce fut à partir de ce moment qu'il étudia sa sœur avec plus d'attention. Il ne tarda pas à pénétrer le labeur immense de ce petit être pâle et vague, dont la face entière semblait loucher et se fondre. Il eut du respect pour elle. Elle était bien du sang des Rougon. Il reconnut cet appétit de l'argent, ce besoin de l'intrigue qui caractérisait la famille. Seulement, chez elle, grâce au milieu dans lequel elle avait vieilli, à ce Paris où elle avait dû chercher le matin son pain noir du soir, le tempérament commun s'était déjeté pour produire cet hermaphrodisme étrange de la femme devenue être neutre, homme d'affaires et entremetteuse à la fois. Quand Saccard, après avoir arrêté son plan, se mit en quête des premiers fonds, il songea naturellement à sa sœur. Elle secoua la tête, soupira en parlant des 3 milliards. Mais l'employé ne lui tolérait pas sa folie. Il la secouait rudement chaque fois qu'elle revenait à la dette des Stuarts. Ce rêve lui semblait déshonorer une intelligence si pratique. Madame Sidonie, qui essuyait tranquillement les ironies les plus dures sans que ses convictions fussent ébranlées, lui expliqua ensuite avec une grande lucidité qu'il ne trouverait pas un sou, n'ayant à offrir aucune garantie. Cette conversation avait lieu devant la bourse, où elle devait jouer ses économies. Vers 3 heures, on était certain de la trouver appuyée contre la grille, à gauche du côté du bureau de poste. C'était là qu'elle donnait audience à des individus louches et vagues comme elle. Son frère allait la quitter lorsqu'elle murmura d'un ton désolé « Ah, si tu n'étais pas mariée !» Cette réticence, dont il ne voulut pas demander le sens complet et exact, rendit Saccard singulièrement rêveur. Les mois s'écoulèrent. La guerre de Crimée venait d'être déclarée. Paris, qu'une guerre lointaine n'émouvait pas, se jetait avec plus d'emportement dans la spéculation et les filles. Saccard assistait, en se rongeant les poings, à cette rage croissante qu'il avait prévue. Dans la forge géante, les marteaux qui battaient l'or sur l'enclume lui donnaient des secousses de colère et d'impatience. Il y avait en lui une telle tension de l'intelligence et de la volonté qu'il vivait dans un songe, en somnambule se promenant au bord des toits sous le fouet d'une idée fixe. Aussi fut-il surpris et irrité de trouver, un soir, Angèle malade et couchée. Sa vie d'intérieur, d'une régularité d'horloge, se dérangeait, ce qui l'exaspéra comme une méchanceté calculée de la destinée. La pauvre Angèle se plaignit doucement. Elle avait pris un froid et chaud. Quand le médecin arriva, il parut très inquiet. Il dit au mari, sur le palier, que sa femme avait une fluxion de poitrine et qu'il ne répondait pas d'elle. Dès lors, l'employé soigna la malade sans colère. Il n'alla plus à son bureau, il resta près d'elle, la regardant avec une expression indéfinissable lorsqu'elle dormait, rouge de fièvre, haletante. Madame Sidonie, malgré ses travaux écrasants, trouva moyen de venir chaque soir faire des tisanes, qu'elle prétendait souveraine. À tous ses métiers, elle joignait celui d'être une garde-malade de vocation, se plaisant à la souffrance, aux remèdes, aux conversations navrées qui s'attardent autour des lits de moribonds. Puis elle paraissait cette prise d'une tendre amitié pour Angèle. Elle aimait les femmes d'amour, avec 1000 chatteries, sans doute pour le plaisir qu'elles donnent aux hommes. Elle les traitait avec les attentions délicates que les marchandes ont pour les choses précieuses de leur étalage. les appelait ma mignonne, ma toute belle, roucoulait, se pâmait devant elle, comme un amoureux devant une maîtresse. Bien qu'Angèle fût une sorte dont elle n'espérait rien tirer, elle la cajolait comme les autres, par règle de conduite. Quand la jeune femme fut au lit, les effusions de Madame Sidonie devinrent larmoyantes. Elle emplit la chambre silencieuse de son dévouement. Son frère la regardait tourner, les lèvres serrées, comme abîmée dans une douleur muette. Le mal empira. Un soir, le médecin leur avoua que la malade ne passerait pas la nuit. Madame Sidonie était venue de bonne heure, préoccupée, regardant Aristide et Angèle de ses yeux noyés où s'allumaient de courtes flammes. Quand le médecin fut parti, elle baissa la lampe, un grand silence se fit. La mort entrait lentement dans cette chambre chaude et moite, où la respiration irrégulière de la moribonde mettait le tic-tac cassé d'une pendule qui se détraque. Madame Sidonie avait abandonné les potions, laissant le mal faire son œuvre. Elle s'était assise devant la cheminée, auprès de son frère, qui tisonnait d'une main fiévreuse en jetant sur le lit des coups d'œil involontaires. Puis, comme énervé par cet air lourd, par ce spectacle lamentable, il se retira dans la pièce voisine. On y avait enfermé la petite Clotilde qui jouait à la poupée très sagement sur un bout de tapis. Sa fille lui souriait lorsque Madame Sidonie, se glissant derrière lui, la tira dans un coin, parlant à voix basse. La porte était restée ouverte. On entendait le râle léger d'Angèle. « Ta pauvre femme !» sanglota la courtière. « Je crois que tout est bien fini. Tu as entendu le médecin ?» Saccard se contenta de baisser lugubrement la tête. « C'était une bonne personne, » continua l'autre, parlant comme si Angèle fût déjà morte. « Tu pourras trouver des femmes plus riches, plus habituées au monde, mais tu ne trouveras jamais un pareil cœur. » Et comme elle s'arrêtait, s'essuyant les yeux, semblant chercher une transition, « Tu as quelque chose à me dire ?» demanda nettement Saccard. « Oui, je me suis occupée de toi pour la chose que tu sais, et je crois avoir découvert. Mais dans un pareil moment, vois-tu, j'ai le cœur brisé. » Elle s'essuya encore les yeux. Saccard la laissa faire tranquillement, sans dire un mot. Alors elle se décida. « C'est une jeune fille qu'on voudrait marier tout de suite, » dit-elle. « La chère enfant a eu un malheur. Il y a une tante qui ferait un sacrifice. » Elle s'interrompait, elle geignait toujours, pleurant ses phrases, comme si elle eût continué à plaindre la pauvre Angèle. C'était une façon d'impatienter son frère et de le pousser à la questionner, pour ne pas avoir toute la responsabilité de l'offre qu'elle venait lui faire. L'employé fut pris en effet d'une sourde irritation. « Voyons, achève !» dit-il. « Pourquoi veut-on marier cette jeune fille ?»« Elle sortait de pension, » reprit la courtière d'une voix dolente. « Un homme l'a perdue à la campagne, chez les parents d'une de ses amies. Le père vient de s'apercevoir de la faute. Il voulait la tuer. » Tante, pour sauver la chère enfant, s'est faite complice, et elles deux, elles ont conté une histoire au père, elles lui ont dit que le coupable était un honnête garçon qui ne demandait qu'à réparer son égarement d'une heure. « Alors, » dit Saccard d'un ton surpris et comme fâché, « l'homme de la campagne va épouser la jeune fille ?»« Non, il ne peut pas, il est marié. » Il y eut un silence. Le râle d'Angèle sonnait plus douloureusement dans l'air frissonnant. La petite Clotilde avait cessé de jouer. Elle regardait Madame Sidonie et son père de ses grands yeux d'enfant songeur, comme si elle eût compris leurs paroles. Saccard se mit à poser des questions brèves. « Quel âge a la jeune fille ? »
« 19 ans.
La grossesse date
de 3 mois.
Il y aura sans doute une fausse couche. Et la famille est riche et honorable ? vieille bourgeoisie, le père a été magistrat, fort belle fortune. Quel serait le sacrifice de la tante ?
100 000 francs.
Un nouveau silence se fit. Madame Sidonie ne pleurnichait plus. Elle était en affaires, sa voix prenait les notes métalliques d'une revendeuse qui discute un marché. Son frère, la regardant en dessous, ajouta avec quelque hésitation.
« Et toi, que veux-tu ? » ?»«
Nous verrons plus tard, » répondit-elle. « Tu me rendras service à ton tour. » Elle attendit quelques secondes. Et comme il se taisait, elle lui demanda carrément. « Eh bien, que décides-tu ? Ces pauvres femmes sont dans la désolation. Elles veulent empêcher un éclat. Elles ont promis de livrer demain au père le nom du coupable. Si tu acceptes, je vais leur envoyer une de tes cartes de visite par un commissionnaire. »
Saccard parut s'éveiller d'un songe. Il tressaillit, il se tourna, peureusement, du côté de la chambre voisine, où il avait cru entendre un léger bruit.
« Mais je ne puis pas !» dit-il avec angoisse. « Tu sais bien que je ne puis pas !»
Madame Sidonie le regardait fixement, d'un air froid et dédaigneux. Tout le sang des Rougons, toutes ces ardentes convoitises lui remontèrent à la gorge. Il prit une carte de visite dans son portefeuille et la donna à sa sœur, qui la mit sous enveloppe, après avoir raturé l'adresse avec soin. Elle descendit ensuite. Il était à peine 9 heures. Saccard, resté seul, alla appuyer son front contre les vitres glacées. Il s'oublia jusqu'à battre la retraite sur le verre du bout des doigts. Mais il faisait une nuit si noire, les ténèbres au dehors s'entassaient en masses si étranges, qu'il éprouva un malaise, et machinalement il revint dans la pièce où Angèle se mourait. Il l'avait oubliée. Il éprouva une secousse terrible en la retrouvant, levée à demi sur ses oreillers. Elle avait les yeux grands ouverts, un flot de vie semblait être remonté à ses joues et à ses lèvres. La petite Clotilde, tenant toujours sa poupée, était assise sur le bord de la couche. Dès que son père avait eu le dos tourné, elle s'était vite glissée dans cette chambre dont on l'avait écartée et où la ramenaient ses curiosités joyeuses d'enfant. Saccard, la tête pleine de l'histoire de sa sœur, vit son rêve à terre. Une affreuse pensée dut luire dans ses yeux. Angèle, prise d'épouvante, voulut se jeter au fond du lit contre le mur. Mais la mort venait. Ce réveil dans l'agonie était la clarté suprême de la lampe qui s'éteint. La moribonde ne put bouger. Elle s'affaissa. Elle continua de tenir ses yeux grands ouverts sur son mari, comme pour surveiller ses mouvements. Saccard, qui avait cru à quelque résurrection diabolique inventée par le destin pour le clouer dans la misère, se rassura en voyant que la malheureuse n'avait pas une heure à vivre. Il n'éprouva plus qu'un malaise intolérable. Les yeux d'Angèle disaient qu'elle avait entendu la conversation de son mari avec Madame Sidonie et qu'elle craignait qu'il ne l'étranglât si elle ne mourait pas assez vite. Et il y avait encore dans ses yeux l'horrible étonnement d'une nature douce et inoffensive, s'apercevant à la dernière heure des infamies de ce monde, frissonnant à la pensée des longues années passées, côte à côte, avec un bandit. Peu à peu, son regard devint plus doux. Elle n'eut plus peur. Elle dut excuser ce misérable, en songeant à la lutte acharnée qu'il livrait depuis si longtemps à la fortune. Saccard, poursuivi par ce regard de mourante où il lisait un si long reproche, s'appuyait au meuble, cherchait des coins d'ombre. Puis, défaillant, il voulut chasser ce cauchemar qui le rendait fou. Il s'avança dans la clarté de la lampe. Mais Angèle lui fit signe de ne pas parler. Et elle le regardait toujours de cet air d'angoisse épouvantée, auquel se mêlait maintenant une promesse de pardon. Alors il se pencha pour prendre Clotilde entre ses bras et l'emporter dans l'autre chambre. Elle le lui défendit encore d'un mouvement de lèvres. Elle exigeait qu'il restât là. Elle s'éteignit doucement sans le quitter du regard. Et à mesure qu'il pâlissait, ce regard prenait plus de douceur. Elle pardonna au dernier soupir. Elle mourut comme elle avait vécu, mollement, s'effaça dans la mort après s'être effacée dans la vie. Saccar demeura frissonnant devant ses yeux de morte, restés ouverts, et qui continuaient à le poursuivre dans leur immobilité. La petite Clotilde berçait sa poupée sur un bord du drap, doucement, pour ne pas réveiller sa mère. Quand Madame Sidonie remonta, tout était fini. D'un coup de doigt, en femme habituée à cette opération, elle ferma les yeux d'Angèle, ce qui soulagea singulièrement Saccar. Puis, après avoir couché la petite, elle fit, en un tour de main, la toilette de la chambre mortuaire. Lorsqu'elle eut allumé deux bougies sur la commode et tiré soigneusement le drap jusqu'au menton de la morte, elle jeta autour d'elle un regard de satisfaction et s'allongea au fond d'un fauteuil où elle sommeilla jusqu'au petit jour. Saccar passa la nuit dans la pièce voisine à écrire des lettres de faire-part. Il s'interrompait par moments, s'oubliait, alignait des colonnes de chiffres sur des bouts de papier. Le soir de l'enterrement, Madame Sidonie emmena Saccar à son entresol. Là furent prises de grandes résolutions. L'employé décida qu'il enverrait la petite Clotilde à un de ses frères, Pascal Rougon, un médecin de Plassans, qui vivait en garçon dans l'amour de la science et qui plusieurs fois lui avait offert de prendre sa nièce avec lui pour égayer sa maison silencieuse de savants. Madame Sidonie lui fit ensuite comprendre qu'il ne pouvait habiter plus longtemps la rue Saint-Jacques. Elle lui louerait pour un mois un appartement élégamment meublé aux environs de l'hôtel de ville. Elle tâcherait de trouver cet appartement dans une maison bourgeoise pour que les meubles parussent lui appartenir. Quant au mobilier de la rue Saint-Jacques, il serait vendu afin d'effacer jusqu'aux dernières senteurs du passé. Il en emploierait l'argent à s'acheter un trousseau et des vêtements convenables. 3 jours après, Clotilde était remise entre les mains d'une vieille dame qui se rendait justement dans le midi. Et Aristide Saccar, triomphant, la joue vermeille, comme engraissée en 3 journées par les premiers sourires de la fortune, occupait au Marais, rue Payenne, dans une maison sévère et respectable, un coquet logement de 5 pièces où il se promenait en pantoufles brodées. C'était le logement d'un jeune abbé, parti subitement pour l'Italie, et dont la servante avait reçu l'ordre de trouver un locataire. Cette servante était une amie de Madame Sidonie, qui donnait un peu dans la calotte. Elle aimait les prêtres de l'amour dont elle aimait les femmes, par instinct, établissant peut-être certaines parentés nerveuses entre les soutanes et les jupes de soie. Dès lors, Saccar était prêt. Il composa son rôle avec un art exquis. Il attendit sans sourciller les difficultés et les délicatesses de la situation qu'il avait acceptée. Madame Sidonie, dans l'affreuse nuit de l'agonie d'Angèle, avait fidèlement compté en quelques mots le cas de la famille Béraud. Le chef, M. Béraud du Châtel, un grand vieillard de 60 ans, était le dernier représentant d'une ancienne famille bourgeoise, dont les titres remontaient plus haut que ceux de certaines familles nobles. Un de ses ancêtres était compagnon d'Étienne Marcel. En 93, son père mourait sur l'échafaud après avoir salué la République de tous ses enthousiasmes de bourgeois de Paris, dans les veines duquel coulait le sang révolutionnaire de la cité. Lui-même était un de ces républicains de Sparte rêvant un gouvernement d'entière justice et de sage liberté. Vieilli dans la magistrature, où il avait pris une roideur et une sévérité de profession, il donna sa démission de président de chambre en 1851, lors du coup d'État, après avoir refusé de faire partie d'une de ces commissions mixtes qui déshonorèrent la justice française. Depuis cette époque, il vivait solitaire et retiré dans son hôtel de l'île Saint-Louis, qui se trouvait à la pointe de l'île, presque en face de l'hôtel Lambert. Sa femme était morte jeune. Quelque drame secret dont la blessure saignait toujours dut assombrir encore la figure du magistrat. Il avait déjà une fille de 8 ans, Renée, lorsque sa femme expira en donnant le jour à une seconde fille. Cette dernière, qu'on nomma Christine, fut recueillie par une sœur de M. Béraud du Châtel, mariée au notaire Auberteau. Renée alla au couvent. Madame Auberteau, qui n'avait pas d'enfant, se prit d'une tendresse maternelle pour Christine, qu'elle éleva auprès d'elle. Son mari étant mort, elle ramena la petite à son père et resta entre ce vieillard et cette blondine souriante. Renée fut oubliée en pension. Aux vacances, elle emplissait l'hôtel d'un tel tapage que sa tante poussait un grand soupir de soulagement quand elle la reconduisait chez les dames de la Visitation, où elle était pensionnaire depuis l'âge de 8 ans. Elle ne sortit du couvent qu'à 19 ans, et se fut passée une belle saison chez les parents de la bonne amie Adeline, qui possédait, dans le Nivernais, une admirable propriété. Quand elle revint en octobre, la tante Élisabeth s'étonna de la trouver grave, d'une tristesse profonde. Un soir, elle la surprit étouffant ses sanglots dans son oreiller, tordue sur son lit par une crise de douleur. Dans l'abandon de son désespoir, l'enfant lui raconta une histoire navrante. Un homme de 40 ans, riche, marié, et dont la femme, jeune et charmante, était là, l'avait violenté à la campagne, sans qu'elle sût ni osât se défendre. Cet aveu terrifia Élisabeth. Elle s'accusa comme si elle s'était sentie complice. Ses préférences pour Christine la désolaient, et elle pensait que, si elle avait gardé Renée près d'elle, la pauvre enfant n'aurait pas succombé. Dès lors, pour chasser ses remords cuisants, dont sa nature tendre exagérait encore la souffrance, elle soutint la coupable. Elle amortit la colère du père, auquel elles apprirent toutes deux l'horrible vérité par l'excès même de leurs précautions. Elle inventa, dans les farments de sa solitude, cet étrange projet de mariage qui lui semblait tout arrangé. Apaiser le père, faire rentrer Renée dans le monde des femmes honnêtes, et dont elle voulait ne pas voir le côté honteux ni les conséquences fatales.